La Mala Musique. La musique amateur en majesté. Avec Jean-Pierre Sicard. Jean-Pierre Sicard, bonjour.
Bonjour.
Ça faisait longtemps que je voulais faire une émission sur la musique amateur, et en particulier en vous invitant vous, puisque vous avez créé, il y a maintenant 25 ans, ça paraît immensément long, des rencontres chez vous, dans votre maison de Montreuil, qui permettent de réunir des musiciens amateurs, au début simplement les amis très proches, et puis ça s'est élargi. Alors comment vous est venue l'idée de ces rencontres ?
Eh bien, effectivement, j'avais un certain nombre d'amis chanteurs, pianistes, et il nous arrivait à la fin d'une soirée de faire un peu de musique. C'était toujours des très bons moments. Et dans ma maison de Montreuil, le rez-de-chaussée était loué à des amis qui ouvraient leur maison à tous un dimanche par mois. Et j'ai eu l'idée de réunir les deux, et donc de proposer cette idée d'une maison ouverte tous les premiers dimanches du mois, mais avec un moment de musique, un petit concert en fin d'après-midi. Alors, dans les premiers temps, on était assez peu nombreux et il y avait quelques instants de musique très sympathiques, mais ça a très vite fonctionné, ça a très vite pris et le cercle s'est élargi.
Vous êtes économiste de formation, ce qui vous a donné l'occasion d'exercer des responsabilités dans un grand groupe financier public. Vous êtes musicien amateur depuis votre enfance, c'est peut-être aussi quand même ce qui est lié. Vous avez fait d'abord du piano, puis du chant. Est-ce que c'est du fait de votre propre activité de musicien amateur que l'idée vous est venue, ou surtout du fait de recevoir d'autres musiciens ?
Non, je pense que c'est plutôt l'envie de recevoir d'autres musiciens, d'être un moment d'accueil, qu'un lieu pour ma propre pratique, même si ça peut fonctionner aussi comme ça, et bien sûr, c'est très bien. Mais voilà, le plaisir de partager avec d'autres musiciens et de permettre à des amateurs de rencontrer un public, ça c'est quelque chose de très important.
En plus, j'ai toujours été frappée, parce que moi j'y viens depuis longtemps, j'y viens depuis le début à ces rencontres, du fait que peut-être à cause de votre activité professionnelle qui est très, quand même, royalement manager, si l'on peut dire, vous avez l'habitude de diriger des équipes, d'être en charge de projets ambitieux, ça a été une qualité pour nous tous qui constations ce qui se passait dans votre maison, à la fois de très amical et d'extrêmement ouvert du point de vue humain, pas du tout formel, pas du tout mondain, mais on se disait toujours que, tiens, les capacités d'organisation de Jean-Pierre Sicard jouent dans cette faculté d'avoir créé ça.
Peut-être. Je ne suis pas persuadé que ce soit ça l'essentiel. Je pense que c'est plutôt dans l'accueil et l'écoute que dans l'organisation elle-même. Et ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, on a trouvé quelque chose de très simple avec un dispositif systématique.
Depuis
25 ans, qui est toujours le même, avec cette idée du premier dimanche du mois. Les gens savent qu'il y a un rendez-vous. On n'envoie pas d'invitation. Ça se fait de façon très spontanée. Ceux qui sont spectateurs viennent ou ne viennent pas, ils peuvent décider au dernier moment. Et ceux qui sont musiciens, évidemment, ont préparé quelque chose et on a prévu un programme. Et c'est cette régularité qui fait que ça fonctionne très bien.
En plus, c'est vrai que je mets peut-être un peu trop l'accent sur le lien entre la capacité d'organiser et ces dimanches-là, les dimanches musicaux de Montreuil, qui sont liés à une association qui s'appelle Musicamata. Parce que c'est vrai que je sais aussi que vous êtes amoureux de musique depuis toujours. Vous venez d'une famille, votre père était lui-même très mélomane. Et du coup, ça joue tout ça. Il y a une sorte de transmission que vous avez reçue et que vous partagez.
Oui. Absolument, mon père aimait beaucoup la musique, il m'a transmis ça. Et dans ces moments intimes et collectifs à la fois, ça c'est quelque chose de très fort que propose la musique, on a des moments de grâce. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que un dimanche en fin de journée, quand on se dit que le monde va mal, que la semaine va peut-être être pleine de soucis, entendre un lead, même chanter un peu maladroitement, découvrir une œuvre pour flûte et piano d'un compositeur californien des années 80 qu'on connaît pas, ou entendre un quatuor de Telemann avec du traverso, de la viole de gambe, ça crée des moments magiques, et là on se dit que tout d'un coup tout a un sens. Et c'est pour ça que nous faisons ça, et c'est pour ça que les gens viennent et que ça se renouvelle beaucoup. Il faut comprendre que c'est pas juste un cercle d'amis qui se retrouverait régulièrement. Il y a peut-être autour de 500 personnes qui ont l'occasion de passer
une
fois ou l'autre, voilà,
oui, parce que la maison ne peut pas contenir 500 personnes,
bien entendu. On est toujours entre 20 et 40, mais c'est un cercle très large, donc ça se renouvelle beaucoup. Et il y a pratiquement à chaque fois quelqu'un de nouveau qui est amené par un autre. Enfin, oui. C'est ce renouvellement et cette diversité qui fait beaucoup le charme de ce qui se passe là.
Alors, on va avoir l'occasion de revenir plus en détail sur comment ça se passe, quelle est l'atmosphère de tout ce lieu, et puis comment ça se passe musicalement. On va écouter d'abord un premier extrait musical. Il s'agit d'un pianiste japonais, Kenji Oka, qui joue le premier mouvement du concerto italien de Bach.
Thank you.
Kenji Oka au piano dans le premier mouvement du concerto italien, Jean-Pierre Sicard, pour illustrer cette thématique à laquelle je vous ai convié de la musique amateur, puisque vous organisez et vous mettez en forme et en relation toutes sortes de musiciens amateurs dans votre maison de Montreuil depuis maintenant 25 ans. Alors Kenji, c'est pas tout à fait un amateur, pourrait-on dire?
Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui est un excellent pianiste, mais il a un grand mérite, c'est qu'il est toujours souriant quand il joue, et il fait passer beaucoup de joie aussi par son visage et son expression.
Mais il a un autre métier.
Oui,
il n'est pas pianiste de métier,
et c'est un peu ça la définition des amateurs qui viennent à la maison, c'est-à-dire que c'est pas leur métier de faire de la musique, mais ça recouvre évidemment de gens qui seraient tout à fait débutants à certains qui auraient pu devenir professionnels de la musique et finalement ne l'ont pas fait. Alors, nous n'avons pas majoritairement des grands amateurs, comme on dit dans certains concerts ou concours, mais plutôt des gens qui ont une bonne maîtrise de leur instrument ou de leur voix et qui propose des choses intéressantes et puis des choses qu'ils ont travaillées et qui peuvent être entendues et partagées avec un public.
Alors, si je me souviens bien, pour avoir été donc à beaucoup de vos réunions depuis le début, depuis 25 ans, au début j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de chants. Est-ce que c'était parce que vous étiez entouré plutôt majoritairement de chanteurs et de pianistes, parce que vous êtes chanteur et pianiste vous-même? Comment ça s'est ouvert ensuite?
En fait, ça s'est fait progressivement. C'est vrai que comme c'est un fonctionnement en réseau, les chanteurs, les chanteuses ont fait venir sans doute d'autres chanteurs et chanteuses. Et puis finalement, là maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, il y a beaucoup de bons instrumentistes et donc un meilleur équilibre entre le chant et la musique de chambre. Et c'est très bien aussi.
Alors j'ai pris le parti... comme je le fais souvent en fait avec des sujets de ce genre-là et des invités comme vous, de vous laisser me donner un choix de musique et puis après je dois dire que c'est quand même moi un peu qui ai fait les choix. Et j'ai mis en deuxième position après ce très beau concerto italien par Kenji Oka, quelque chose qui est tout récent, qui est un enregistrement d'un opéra de chambre dont vous êtes vraiment le maître d'œuvre, qui est un extrait de Didon et Énée de Purcell. Est-ce qu'on peut dire un mot, enfin même plus qu'un mot, de comment est venu, parce que ça fait déjà plusieurs années que vous avez entrepris quelque chose qui est très ambitieux quand même pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, de mettre en scène, souvent de faire la réduction et même la transcription instrumentale d'opéras du répertoire tel que Didon et Énée. On va voir qu'il y en a eu bien d'autres. Vous en êtes au combienième, 7e ou 8e?
Oui, c'est ça.
À peu près. comment c'est venu ça? Avec quelle ambition? Vous y êtes allé au culot en vous disant j'ai envie de le faire?
Oui, en fait, c'est venu sans ambition. Au début, simplement, on pouvait entendre un duo, un trio d'un opéra de Mozart avec d'autres chanteurs.
Parfois un peu plus.
Voilà, y participer et puis avoir envie de jouer parce que c'est une musique qui s'y prête. Et dans un premier temps, pour moi, l'opéra, c'était comme pour beaucoup, c'était un monde inaccessible, la lourdeur de la production, la magie des divas, on est seulement spectateur. Et puis finalement, avec ces pratiques à la maison, je me suis rendu compte qu'on pouvait complètement changer d'échelle, le penser comme du théâtre d'appartement, mais avec des intentions fortes pour la mise en scène.
Et des exigences.
Importante. Et au début, avec des groupes de chanteurs de bon niveau, dont certains qui étaient plutôt des jeunes professionnels d'ailleurs, et d'autres des vrais amateurs qui le sont restés, on a fait des projets. Alors, dans un premier temps, avec d'ailleurs des metteuses en scène professionnelles, jeunes, qui nous ont aidés. Et puis, moi-même, je m'y suis plongé. Alors, pour des versions de chambre, certaines données comme dans une logique de cabaret, donc dans notre salon comme nos concerts habituels, et puis d'autres projets qui nécessitent un peu plus de place. Ça a été le cas pour ce Didon. Didon, c'est un opéra qui se prête à une pratique amateur, dans la mesure où il n'y a pas un gros effectif instrumental.
Et puis l'opéra est court aussi.
Et l'opéra est court. Mais plus. Là, c'était à notre échelle une super production, parce qu'il y avait 7 chanteurs, 7 instrumentistes.
Et puis vous l'avez donné intégralement.
Et 7 danseurs et jeunes acteurs. Mais pour cette fois-ci, il y avait une direction musicale. Donc moi, je n'ai fait que la mise en scène. J'ai chanté aussi. Et l'organisation. Mais Pierre-Jean Desnoux, qui est un ami claveciniste et qui dirige un ensemble baroque, qui est lui aussi un amateur de très bon niveau, faisait la direction musicale. Donc là, on s'est partagé les rôles.
Voilà, alors c'est lui justement qui dirige. On va revenir à la mise en scène, parce que je trouve que c'est quand même une entreprise de votre part que je trouve admirable. Alors, c'est Pierre-Jean Desnoux qui dirige ici l'ensemble d'instruments baroques, et c'est Anne Guidet qui chante le rôle de Didon dans cette mort de Didon à la fin de l'opéra d'Henri Purcell. La mort de Didon, avec Anne Guidet dans le rôle de Didon et un ensemble d'instruments baroques dirigés par Pierre Jandénoux, dans le cadre donc de vos réunions musicales à Montreuil, Jean-Pierre Sicard. Et ce Didon, il date de l'été dernier, c'est la toute dernière à ce jour des productions mises en scène par vous. Alors comment vous êtes-vous lancé dans la mise en scène? Après tout, ça ne s'improvise pas et vous n'êtes pas comédien.
Non, mais je m'intéresse à l'opéra depuis très longtemps et en fait je suis autodidacte, on va dire, pour la question de la mise en scène, mais j'observe, je regarde, j'écoute, j'ai vu un certain nombre d'opéras je fonctionne beaucoup par images scénographiques et par désir pour les personnages, et puis après il faut construire, il faut travailler.
Vous laissez venir des intuitions ?
Oui, beaucoup. C'est
des
très
images comme ça, surgissantes.
Oui.
Comme
beaucoup
un rêve.
Par image. Exactement. C'est proche du rêve. Je dois dire que quand j'ai l'occasion de voir des spectacles amateurs, en général, je suis déçu, voire très agacé par la mise en scène, parce que c'est souvent très conventionnel, avec des gestes stéréotypés, des chanteurs. Et je pense qu'au contraire, quand on a affaire à des chanteurs amateurs,
avec
des limites vocales, des limites scéniques, il faut proposer des images assez fortes, des ruptures,
des choses humoristiques,
des
surprises. Même dans des opéras qui ne s'y prêtent pas forcément.
Effectivement, des surprises pour les spectateurs. Un rythme et le moins de temps mort possible. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, bon, pour Didon, on a à peu près suivi le livret parce qu'il s'y prête et c'est possible, mais on a eu d'autres expériences qui, elles, donnaient beaucoup plus de cours à la fantaisie. Et par exemple, une flûte des étoiles qui était une sorte de télescopage entre la flûte enchantée de Mozart et Star Wars.
Alors, c'est une idée en or, vraiment.
Oui, et ça marche très bien parce que comme on est dans un univers du conte, les personnages sont des archétypes, donc on voit très vite les personnages se transposer, se coller les uns aux autres. Bon, évidemment, la Reine de la Nuit, c'est Dark Vador, donc une basse coloratour, c'est pas du tout évident, mais il y avait comme ça peut-être quelques moments parodiques, mais sinon des extraits bien sûr avec des airs de Mozart dans toute leur pureté, parce que c'est ce qui est beau et c'est aussi ce qui contraste avec du John Williams. Bon, l'intérêt, c'est que ça permet aussi de toucher un public, notamment jeune, qui s'intéresse pas a priori à l'opéra et qui finalement, dans un cadre comme ça, va complètement marcher là-dedans.
Alors, vous avez trois enfants, dont l'un à la trentaine et les deux autres 20 et 23,
à peu près.
En tout ça pour dire qu'en tant que père de famille et en tant que père de deux enfants sur les trois au moins qui font de la musique, du violon et de la clarinette, vous avez eu aussi cette idée qui est très, très séduisante pour le public, parce que c'est extrêmement chaleureux, de faire participer très tôt vos enfants, soit simplement aux rencontres musicales de Montreuil du dimanche, soit à ces spectacles-là, en transcrivant pour eux certaines parties d'un opéra, pour qu'il y ait une partie de violon pour votre fils Éole, voilà. Et une partie de clarinette, non le contraire, une partie de violon pour votre fille Joséphine, et une partie de violon pour votre...
De clarinette pour votre fils Éole.
Ça veut dire tout ça... que les enfants, les amis aussi de vos enfants, qui étaient à l'époque enfants, puis ados, puis maintenant jeunes adultes, sont aussi des participants. Peuvent l'être.
Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis, de manière très pragmatique, pour moi, c'est aussi une ressource pour ces projets, y compris avec mon fils aîné qui est dans le cinéma et qui apporte plein de choses à ce qu'on peut faire sur scène.
Et qui, bien souvent, a capté, enregistré, monté les
spectacles. Exactement. Et puis, qui a beaucoup contribué. Donc, oui, il y a un côté pratique familiale. Et je pense que c'est d'ailleurs tout à fait dans l'esprit de ce qui s'est fait au 19e siècle ou à d'autres époques dans les salons. Où il y a aussi une forme de famille, même parfois étendue. C'est très attrayant et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une diversité d'âge. Par exemple, dans le Didon dont on parlait tout à l'heure, les âges allaient de 12 ans à plus de 60 ans. Et cette diversité, elle enrichit beaucoup un projet et elle touche le public, forcément.
Alors, on va poursuivre avec un projet encore plus ambitieux que cette flûte des étoiles que vous commentez à l'instant, qui est d'avoir mis en scène, évidemment en faisant des coupures parce que c'est immensément long, un opéra très difficile qui est Le songe d'une humidité de Britten. Vous avez fait ça il y a 2 ans maintenant.
Oui.
On va écouter en fait, et après peut-être on le commentera.
Volontiers.
Un extrait de cet opéra, en l'occurrence l'air d'Obéron. On désannoncera les interprètes après, mais vos enfants en font partie.
My gentle buck, come hither, come hither. happy ones. The juice of it on sleeping eyelids late can make or man or woman madly dote upon the next life creature that it sees. This juice, I'll watch Titania when she's asleep and drop the liquor of it in her eyes. Then I'll take this charm from off her sight. I'll make her render up her fate to me.
L'air d'Oberon dans Le songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten par Ruben Bisoli, contre-ténor, Joséphine Sicard au violon, Éole Sicard à la clarinette et Azusa Lodzinguez au piano. Alors peut-être que ça nous fait un lien après tout musicalement assez intéressant de parler à présent de quelque chose dont on n'a pas parlé qui est très important dans vos rencontres musicales depuis 25 ans, Jean-Pierre Sicard. C'est ces deux moments par an, deux ou trois, deux ?
Ça dépend.
Variable. En tous les cas, au moins deux dimanches par an où vous n'accueillez que le répertoire baroque et que des instrumentistes baroques. C'est venu comment ça aussi ? C'est parce que des luthistes sont venus, des clavecinistes ? Vous avez eu un clavecin à un moment ? Comment ça s'est joué ?
On a eu la chance d'avoir des amis, et notamment Pierre-Jean Desnoux, qu'on entendait tout à l'heure, enfin via sa direction, qui font de la musique baroque. Parce que c'est vrai que on peut évidemment jouer de la musique baroque sur un piano, mais ça, c'est beaucoup moins intéressant. Et donc, on a été amené à louer un clavecin, à pousser le piano, à installer le clavecin, et puis à se regrouper donc ces instrumentistes baroques qui apportent vraiment beaucoup, qui ont une pratique, qui connaissent ce répertoire. Bon, ça se prête presque encore mieux à un salon
à l'intimité d'une taille, salon
voilà, qui est d'une taille intime, parce que le luth, le traverso, le clavecin sont des instruments qui n'ont d'abord pas une très grande puissance et qui ont beaucoup de délicatesse. Mmh. Et donc, tout le monde aime beaucoup ce charme particulier de ce répertoire baroque. Alors, évidemment, on va entendre des arias da capo qui sont des véritables tubes de Handel ou du Bach, qui n'est pas un inconnu, mais c'est l'occasion de découvrir beaucoup de compositeurs que les non-spécialistes ne connaissent pas, oui, de musique française ou italienne. Et aussi, ce qui est très bien, c'est que c'est un répertoire qu'on a moins dans l'oreille, alors que pour beaucoup de choses, je ne sais pas, un Lied de Schubert ou une sonate violon-piano de Beethoven,
très grand répertoire, ouais.
On les a dans l'oreille dans des grandes interprétations. Et donc,
on a tendance à comparer,
oui,
malgré
les,
soi.
Les amateurs, oui, sont desservis
sont
par
défaut,
la comparaison,
oui,
alors que là, c'est un répertoire. Ça ne veut pas dire qu'on le traite mal, mais simplement, on n'a pas cet effet de référence dans l'oreille, et du coup, c'est vraiment intéressant à entendre.
Alors, on va commencer par... On va écouter, en fait, deux extraits, mais pour le moment, on va écouter une pièce de viol à trois instruments, donc basse de viol et deux théorbes, de Marin Marais, première suite du quatrième livre de pièces de viol.
Thank you.
De viol de Marin Marais, joué magnifiquement dans le cadre donc des thés musicaux baroques de Montreuil qui ont lieu donc deux ou trois fois par an. Jean-Pierre Sicard, chez vous, dans oui. votre maison. Vous, en tant que chanteur amateur, vous êtes aussi lancé dans le baroque parce que c'est un répertoire magnifique et très gratifiant. Alors comment, est-ce que vous prenez des cours de chant depuis longtemps? Est-ce que ça vous a demandé d'acquérir une technique particulière? Comment ça se joue pour un amateur d'aborder ce répertoire-là?
C'est difficile, mais pas forcément, à mon sens, pour la technique vocale. C'est plutôt tous ces frottements, ces dissonances qu'il y a dans le baroque, qui demandent des qualités...
De justesse,
de
simplement.
De justesse, de solfège. Et puis, tout le travail de l'ornementation, qui est très particulier et qui, en plus, laisse beaucoup de liberté à l'interprète. Bon, le plus simple, c'est d'écouter une version qu'on aime au disque et puis d'essayer de reprendre à l'oreille ce que fait un grand interprète. Hein. C'est aussi une façon de travailler quand on est amateur,
absolument.
qui est très
utile. Et que font aussi d'ailleurs des professionnels, j'imagine.
Peut-être. Et puis, pour la technique vocale proprement dite, c'est plutôt plus facile que des répertoires classiques ou romantiques parce que on a pas besoin d'une voix aussi lyrique, donc une voix moins riche, moins puissante, moins ronde, peut faire des choses tout à fait honorables dans du répertoire baroque.
C'est d'ailleurs pourquoi, en fait, j'ai choisi dans les extraits, il y avait un grand nombre d'extraits de tout depuis, ça fait quand même des années que beaucoup de choses ont été enregistrées chez vous.
Oui,
donc
parfois,
il y avait des choix.
Pas systématiquement, mais c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des enregistrements, oui.
Et j'ai choisi cet air de Michel Lambert, donc, qui est donc un grand compositeur français d'air de cour en particulier, mais aussi de musique religieuse du XVIIe, donc du oui. grand siècle, qui s'intitule « Vos mépris ». Parce que j'entends dans votre façon de le chanter... Je le dis d'emblée, peut-être les auditeurs vont l'entendre différemment, certainement. Mais quelque chose qui est très dans l'écoute et pas seulement dans l'interprétation. On sent que votre émotion vis-à-vis de ce répertoire vous rend extrêmement sobre et extrêmement presque dans un rêve, comme si vous rêviez votre propre chant. Et c'est très beau, ça. Et c'est quelque chose qui arrive souvent chez vous, à Montreuil, dans ces thés musicaux auxquels j'ai beaucoup assisté. C'est qu'on a l'impression qu'on oublie complètement de savoir si on a affaire à un amateur ou à un professionnel, quand justement l'émotion est là, et qu'on sent l'émotion de l'amateur, qui souvent rivalise vraiment avec profit, avec l'émotion des grands interprètes, qui parfois sont beaucoup plus blasés.
C'est vrai que c'est souvent ce que je ressens à l'écoute. Bon, évidemment, il faut que les choses aient été bien préparées, hein, mais soient solides techniquement. Mais c'est vrai que l'émotion apporte beaucoup. Là, dans ce cas, bon, moi, j'aime beaucoup Lambert pour sa sensualité. Et puis, ce qui aide à créer cet état de rêve, c'est qu'il y a une ritournelle d'introduction. Et là, j'ai eu la chance d'avoir ces amis qui font de la musique baroque, ces instrumentistes. Et donc, cette introduction aux instruments qui reprend le thème qui est chanté, c'est un temps de préparation. Donc pendant ce temps-là, le chanteur est comme porté par
voilà,
cette musique de grâce, condense
oui,
sa concentration, sa présence, oui. Et après, à la fois cette liberté, cette émotion dont vous parliez. Bon, évidemment, sans illusion sur mes limites vocales en l'occurrence.
Mais je vais quand même dire un mot aussi pour sortir là du morceau en question qu'on va écouter juste après. Je me souviens qu'il y avait eu une émission de télévision qui avait eu lieu sur vos goûters, sur France 3, je crois, je ne sais plus.
Oui, il y a 20 ans maintenant.
Il y a 20 ans maintenant, bon, en tous les cas, c'était quand même, il y avait eu déjà un grand reportage. Et je me souviens que quand je l'avais découvert télévisuellement, puisque j'y étais, quand ça a été tourné, ils avaient très bien rendu compte de comment les gens écoutent chez vous. Et on voyait des visages tout à fait soit émus, soit rêveurs, soit un peu tristes, parce que peut-être quelque chose leur rappelait quelque chose, soit simplement jubilatoire, quand c'était jubilatoire, mais ils avaient réussi à capter le très grand bonheur des auditeurs. Et c'est quelque chose quand même de magique d'avoir réussi ça.
Oui, c'est ce qui est émouvant dans ce qui se passe tous les premiers dimanches du mois. Presque à chaque fois, il y a au moins un moment qui est un moment qui touche
le public. Un moment de
magie,
oui. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus qu'un, mais bon, vous êtes modeste. Donc on va écouter cet air de Michel Lambert par vous, avec un ensemble de musiciens baroques.
Si j'étais heureux, si j'étais heureux.
Michel Lambert, Vos mépris, chanté par vous-même, Jean-Pierre Sicard, avec un ensemble de musiciens baroques. Ça, c'était dans, vraiment un exemple de ce qui est pris dans le cadre intime de votre maison à Montreuil. En revenant un instant aux opéras que vous mettez en scène régulièrement, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont été donnés dans votre maison aussi, hein, pour un public d'une cinquantaine de personnes maximum, et avec une mise en scène tenant sur un plateau de 10 mètres carrés.
Moins même.
Sans doute. Alors, il y a quelque chose
comme au cabaret, quoi. C'est cette logique-là
c'est
pour la
logique
mise en
cabaret,
scène et le rapport au public.
Et la taille de la pièce où vous nous recevez, nous, le public et les auditeurs. Alors, il y a eu parmi des projets variés, donc, puisqu'il y a eu deux Mozart, il y a eu La Flotte Enchantée, il y a eu Don Giovanni, un Purcell, on en a parlé, Didon et Aîné.
Cela a été donné dans un cadre.
Dans un cadre plus
large. Un atelier large. Un peu plus large.
Et
pour
vous
le
avez
permettre.
Donné chez vous quelque chose qui était fascinant parce que c'était Cléopâtre. Le nom du. C'est Antoine et Cléopâtre.
Non, c'est Cléopâtre.
Cléopâtre, la Cléopâtre de Jules Massenet, donc grand compositeur français romantique. Vous l'avez donné avec, au passage, certaines idées scénographiques qui étaient absolument jubilatoires, dont la participation de votre fils Éole, qui est un bon, danseur, joueur
rappeur
avec une
chanteur.
Séquence vraiment de rap au cœur de Massenet et qui apparaissait tellement bien intégré qu'à la fois tout le monde a éclaté de rire quand c'est apparu parce que à côté de Massenet, ça fait une espèce de choc des cultures et en même temps ça passait très bien.
Bah ça passait bien parce que avec Éole on avait écrit ensemble le texte, évidemment sur un mode rap, mais avec tous les éléments qu'il y a dans le Cléopâtre de Massenet, donc l'histoire d'Antoine et Cléopâtre revue en langage de rappeur. Bon, c'est peut-être facile, mais ça a fonctionné, c'est vrai, très bien dans cet opéra. En plus, c'est un opéra peu connu. Alors, évidemment, on avait donné que des extraits, parce que c'est le genre d'opéra énorme
où
il faut avoir des chevaux et des défilés d'armée sur scène. Bon, on a fait des défilés d'armée, mais bon,
arrangé pour le lieu.
Et on s'est centré sur quelques airs et quelques moments qui, eux, sont plus intimes, parce que dans tout opéra bien construit, il y a des moments d'intimité, même dans ceux comme chez Verdi, où il y a des grandes scènes spectaculaires. Il faut les deux. Et là, on s'est plutôt centré sur les moments intimes du fait du lieu, mais en trouvant le moyen d'évoquer aussi d'autres dimensions. Et puis, c'est tout un rapport à l'Antiquité qui est assez fascinant, qui est fascinant dans le style de Massenet, mais aussi pour lui-même, pour ce que ça évoque de l'histoire et des époques. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans la musique, d'ailleurs, ce rapport à l'histoire et à un contexte. Pas seulement dans l'opéra, mais parce que toute musique, elle a une période, une époque, et elle renvoie sur ce passé.
D'ailleurs, ce qui est très... Je souris en vous écoutant, parce que ce qui est très séduisant pour nous autres, quand on découvre vos spectacles, la plupart d'entre nous, tous ceux qui n'ont pas participé, c'est-à-dire la très très grande majorité, on découvre vraiment le spectacle. Vous nous y invitez en préparant souvent un peu l'événement, en disant, vous allez voir quelque chose peut-être qui va vous étonner. Bon, c'est tout ce qu'on sait, mais ce qui est toujours très séduisant, c'est que vous connaissant, tout le monde vous connaît bien maintenant, ceux qui viennent régulièrement, c'est devenu pour beaucoup des amis, on connaît votre culture et en même temps on découvre quelque chose qui est un plaisir d'enfant à mettre en scène Antoine et Cléopâtre avec ce qu'il faut de costumes, les vêtements métalliques des centurions et autres, c'est drôle, on a l'impression
que
vous prenez plaisir à vous costumer tout en faisant un travail de haute qualité musicale et culturelle.
Parce que je suis aussi un petit garçon qui aime jouer. Et c'est vrai que mon goût pour la mise en scène, je sens bien que j'y retrouve mes plaisirs d'enfant à jouer.
Et se déguiser.
Presque plus que pour se montrer à un public. En fait, c'est l'occasion de jouer comme quand on est enfant et qu'on n'a pas de public. Le plaisir, il est d'être à l'intérieur d'un personnage
et d'une
histoire qu'on s'invente et d'un monde.
Mais en plus, vous le partagez. Alors, on va écouter un air de Cléopâtre, l'air de la coupe, interprété par la mezzo Pascal Douce, avec Éole Sicard, donc votre fils à la clarinette, et Stella Soupaya au piano. De la coupe de Cléopâtre de Jules Massenet par Pascal Douce, mezzo qui a dû faire, mais j'ai oublié lequel, un jeu de scène spécialement divertissant pour que, quoi, elle meure à ce moment-là.
Elle meurt beaucoup plus tard. En fait, elle part avec le très bel esclave presque nu qu'elle séduisait avec cet air de la coupe. Et c'est ça qui fait rire le public, c'est pas l'air lui-même.
Ah oui, enfin pour une fois, en tous les cas, on a les réactions du public enregistrées. Ça nous manquait quand même depuis le début. C'est quelque chose de... un des points dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant à propos de ces rencontres musicales chez vous à Montreuil, Jean-Pierre Sicard, depuis 25 ans, c'est que ce n'est pas seulement le moment du concert, c'est le moment aussi d'un thé. d'un goûter, disons, où les gens apportent quelque chose à manger. Vous servez toutes sortes de choses à boire. Et on peut, pendant au moins une heure, puisque vous ouvrez la maison souvent une heure et demie avant le début du concert, rencontrer ses amis, rencontrer de nouvelles personnes. Et après le goûter, vous avez encore le courage de laisser les gens continuer un peu sur la lancée.
Le courage et le plaisir.
Et le plaisir, mais quand même, je trouve, pour un maître de maison, quand même, et sa famille, c'est quand même un dimanche par mois depuis 25 ans, faire maison ouverte comme ça, c'est quelque chose d'assez magique. C'est ce qui fait quand même que les gens sont tellement attirés aussi. C'est très chaleureux.
Oui, c'est chaleureux et ça modifie aussi le moment de concert parce que avec la régularité dont je parlais tout à l'heure, qui est un point très important, du coup, ce rendez-vous et ces moments avant et après le concert lui-même modifient le rapport que le public a avec les interprètes. Les interprètes, ils ne sont pas cachés dans des loges ou des coulisses pour apparaître tout d'un coup sur scène. Alors, c'est aussi plus difficile pour leur concentration. Hein. Je suis bien placé pour le savoir. Quand on chante, on a plus de mal à se concentrer que si on pouvait s'isoler un moment avant. Mais ça ne fait rien. Ça fait partie de la façon dont on fonctionne. Et en revanche, ça crée une proximité, des échanges qui apporte aussi des choses à l'écoute de ceux qui sont sur scène tout d'un coup.
Mais souvent, d'ailleurs, avant le concert, quand on ne connaît pas personnellement ceux qui vont se produire, on ne sait pas qui va chanter. C'est ça aussi qui est le charme de la chose.
Oui, d'autant que le public est aussi composé de musiciens qui vont se produire, parce que dans notre formule, ce n'est pas le récital de quelqu'un.
Du tout, même.
Bon,
non,
les moments d'opéra étant tout à fait à part et se faisant dans un cadre un peu différent, mais dans nos premiers dimanches du mois, avec le concert habituel, on a plutôt une succession de formations. Je sais pas, un pianiste, un duo de chant, du piano-violon, et puis une conclusion instrumentale ou chantée. Bon, c'est très, très variable selon les fois. Et donc, cette diversité contribue aussi beaucoup à l'intérêt et à la capacité d'écoute du public.
La diversité, et puis quand même, j'insiste là-dessus, même si vous venez de le dire, le fait que ce n'est jamais... les musiciens font partie du public.
Voilà.
Le public ne fait pas partie des musiciens, mais l'inverse, oui, c'est très important. Parce que du coup, ce qui a toujours aussi été une... Autant que j'ai pu l'entendre parmi les auditeurs que je connais bien de ceux qui viennent chez vous, ce qui est l'un des grands charmes aussi de ça, chez les auditeurs et chez les musiciens, c'est qu'il y a une bienveillance extraordinaire. On n'attend pas les gens au tournant. Parce que comme justement, je pense que c'est quelque chose que les gens qui font de la musique savent que c'est difficile. Du coup, ils écoutent toujours les autres avec bienveillance. J'ai jamais vu chez vous que même si on a chacun un jugement, forcément, parce qu'on a un avis sur ce qu'on a entendu, d'abord, souvent, on ne le dit pas si c'est un avis négatif à celui qui l'a fait. Et souvent, il y a des échos après, le moment où on bavarde après le concert, où des choses sont dites qui peuvent être utiles. Enfin, c'est très...
Oui, cette bienveillance est très importante, mais c'est aussi une écoute exigeante. Et c'est ça qui est intéressant pour les musiciens, parce que... quand on est invité quelque part et que tout d'un coup il y a de la musique et tout le monde dit « Oh, c'est sympathique !» Mais là, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez nous. Les gens savent à quoi s'attendre, même les nouveaux, on leur a un peu expliqué. Et donc, on sait comment ça va se passer. On a peut-être déjà écouté un des interprètes qu'on entend. On se demande si ce répertoire lui convient mieux ou moins bien, etc. Donc, il y a une écoute très attentive.
Il y a une écoute très attentive, mais je dirais pas exigeante au sens où on attend les gens au tournant
non,
de leur
pas
imperfection, du tout, du tout.
C'est vrai, c'est pas
parce
exigeante
que c'est quand même incroyablement
dans ce
sens-là. En même temps,
c'est pas exigeante dans ce sens-là. C'est exigeante au sens de l'attention et de l'intérêt pour ce qui est donné. C'est plutôt ça. C'est plutôt un intérêt exigeant qu'une exigence qui mesurerait le niveau de qualité ou de performance ce jour-là. C'est pas ça. Mais je pense que les musiciens apprécient beaucoup d'abord de pouvoir rencontrer un public parce qu'ils en ont pas tellement l'occasion. Ensuite, ces rendez-vous, c'est un stimulant pour travailler parce qu'on prépare quelque chose pour dans 2 mois ou dans 3 mois. Et puis aussi des rencontres avec d'autres musiciens. Et ça, c'est très intéressant. Ça a permis aussi à des groupes de se former.
Et puis voilà, des amitiés, de se créer.
Voilà,
et même des gens de former des couples et de se marier.
Absolument, il y a eu des enfants qui sont nés, si ce n'est pendant un concert, du moins grâce à des rencontres qui s'étaient produites là. Et pas qu'un. Et puis, il y a aussi des retours critiques, mais au sens constructif du terme. Mais quand on a des amis assez proches ou autres, c'est intéressant d'avoir des remarques sur la façon dont on a interprété quelque chose. Ou peut-être peut-être aussi d'un répertoire qui vous convient mieux qu'un autre. Et je pense que ça, tout le monde apprécie beaucoup.
En plus, en revenant un instant, Jean-Pierre Sicard, sur ce dont vous parliez à l'instant, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez créé, au long de ces 25 ans, quelque chose où l'écoute s'est développée chez tout le monde, au fond. Les professionnels, bon, dont je suis, avaient peut-être pas forcément besoin de ça. Mais il y a plein d'amateurs qui n'étaient pas forcément même tellement mélomanes classiques, qui se sont initiés à la musique classique,
oui,
chez vous.
C'est tout vraiment à fait vrai, beaucoup. Et dans un autre cadre que le concert, où ils allaient peut-être, où ils
ou
vont peut-être
forcément.
Par ailleurs, d'abord pas forcément, mais qui est quand même un contexte effectivement très différent. Alors là, c'est vrai que vous personnalisez beaucoup, mais je ne fais pas ça tout seul, et d'ailleurs maintenant le fait qu'on ait une association autour de ça permet d'avoir un collectif de gens qui y travaillent. Dominique, ma femme, les enfants sont aussi partie prenante comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc c'est de plus en plus collectif, ça échappe à ceux qui l'ont créé, et pour le meilleur.
Vous comptez poursuivre pendant encore 25 ans ou c'est une grande inconnue?
Eh bien, oui, on compte poursuivre sans se poser la question du temps, et ça donne un sentiment de pérennité, de quelque chose qui est en dehors du temps. Alors c'est toujours une illusion, mais c'est une illusion qui fait du bien.
Merci beaucoup Jean-Pierre Sicard d'être venu nous parler de Musique Amateur et de ces dimanches musicaux chez vous. Et nous allons terminer comme nous avons commencé avec Kenji Oka dans un autre extrait du concerto italien de Bach.